Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. En fait, c'est notre Kabbalah Shabbat, notre émission fétiche du vendredi après-midi, qui maintenant, évidemment, pour des raisons d'horreur, se transforme pendant l'hiver en Mélève Malka et devient notre grande émission du samedi soir. Et nous sommes en ligne avec le Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel.
Bonsoir.
Shavuot Tov,
en effet, on avait l'habitude de se dire Shabbat Shalom, et bien maintenant c'est Shavuot Tov.
Eh oui, mais les deux sont bien.
Je souhaiter des bonnes choses.
Shavuot Tov, c'est bon, ça durera plus longtemps la Shavuot que la semaine, que le Shabbat. Et alors bon, ça a un inconvénient de passer comme ça du vendredi après-midi au samedi soir, c'est qu'on va faire sauter une paracha. Mais les rabbinim, ils n'aiment pas ça. Et donc, vous, Eli Lemel, vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, on m'a dit, non, Bernard, moi, je vais parler des deux. On ne va pas passer, on ne va pas enjamber comme ça, à Dieu ne plaise, Chas v'Shalom, Parashat Vayera, puisque notre nouvelle Parashat, ce passage qu'on lit dans nos communautés, ben maintenant, forcément, c'est Chaye Sarah. Vous voulez parler des deux. Alors, vous avez vu quelque chose d'étonnant dans ces deux parachutes, c'est l'idée de courir. Alors pourquoi? Parce qu'on voit dans les deux passages, on voit des personnages qui courent. Oui, oui. Laban court lorsque Eliezer vient vers lui, je ne vais pas faire la drache à votre place. Et ensuite, on voit que Avram court quand il voit arriver les invités. Donc il y a une idée de course. C'est intéressant, c'est pas seulement marcher, c'est courir. Qu'est-ce que vous y voyez?
Oui, Bernard, en effet, on remarque bien dans ces deux parachiotes cette notion de ritza, cette notion de course. Alors, c'est quoi cette histoire de course? Abraham va courir, il court vite vers Sarah pour lui dire qu'elle doit préparer à manger pour les invités. Il court lui-même aussi pour amener un certain nombre de choses. Il fait courir Ismaël pour l'aider. C'est une course, alors qu'au fond, l'essentiel, c'est de savoir ce qu'il va faire. Le fait qu'il court ou pas, ça change quoi? De la même manière, Lavan, qui va être donc le beau-frère d'Isaac, puisque c'est Rebecca, sa sœur, qui va l'épouser, eh bien, lui aussi, lorsqu'il voit que Eliezer, qui est l'envoyé d'Abraham, a amené des bijoux à sa sœur, eh bien, il court à sa rencontre. Alors, c'est quoi cette idée, au fond, de course? Il y a ici un concept que l'on retrouve dans le Talmud. Et ce concept, c'est celui de la zrizout. Zrizout, c'est quoi? C'est l'empressement. Il y a un enseignement dans le Talmud qui nous dit la chose suivante. Rabbi Pinchas ben Yair dit que la Torah amène l'individu à la zehirout. Zehirout, c'est la vigilance. Et cette vigilance l'amène à la zrizout, l'empressement. C'est quoi cette notion de savoir faire les choses avec empressement? Eh bien, on va voir dans un autre texte du Talmud, que cette notion d'empressement, elle va être capitale. En effet, le Messilat Yesharim va nous expliquer, va nous dire que « Ma'aseem shel tzadikim tamid b'meirut » que les actions des tzadikim se font toujours dans la rapidité. Pourquoi est-ce qu'elles se font dans la rapidité? Parce que la conscience qu'ils ont de l'importance de la chose fait qu'ils sont dans l'immédiateté de l'action. Et cette dimension-là, on la retrouve dans un verset, puisque le verset nous dit « Ushmaratem et amatzot » et vous garderez les matzot. Quel est le rapport? Vous allez me dire, là on a l'impression qu'on est parti complètement ailleurs. Or, vous constaterez que le mot matzot, les quatre lettres qui constituent le mot matzot, peut se dire aussi mitzvot, les commandements. Quelle différence? Eh bien, il n'y en a aucune. Pourquoi? Les matzot, rappelons-nous, c'est ce mélange d'eau et de farine, mais surtout qui ne doit pas gonfler. Il ne faut pas que le temps puisse s'écouler. Il faut immédiatement, dès que la pâte est faite, la cuire pour avoir des matzot. Eh bien, de la même manière, ushmartem et amitzot, garder les mitzot, garder les commandements, c'est faire en telle sorte que le temps n'ait pas de prise sur eux. Traduction, lorsque le temps passe, eh bien, cette pâte devient impropre à devenir des matzot. Quand le temps passe, il y a de fortes chances que nous ne faisions plus l'acte que nous avions envie de faire. Et même si nous allons le faire, il ne se fera plus avec la même intensité, avec la même rapidité, avec surtout le même état d'esprit. Ça, c'est donc cette notion de zrizout, d'empressement. Et au passage, il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante, que il faut être capable, dit Yehuda ben Tema, d'être hardi comme le léopard, léger comme l'aigle, rapide comme le cerf et puissant comme le lion pour faire la volonté de notre Créateur. Intéressant de voir que dans ces dimensions-là qui sont présentes et qui doivent être présentes chez l'humain pour pouvoir remplir son projet d'existence, il y a bien sûr la razout, c'est-à-dire la hardiesse, ne pas avoir peur, être capable d'imaginer qu'on est capable de faire plein de choses. Mais après, on a cette légèreté. Cette légèreté, c'est s'affranchir des contingences matérielles, ne pas faire que celles-ci soient des éléments qui nous empêchent d'avancer, mais surtout ratz, cette notion de course, c'est-à-dire être capable, dès le moment où les choses sont présentes devant nous et que nous avons conscience qu'elles doivent être faites, eh bien, on le fait immédiatement. La zrizout, ce n'est pas une course éperdue, c'est la capacité d'être dans un mouvement immédiat dès lors que la décision a été prise. Vous savez, on peut prendre un exemple très simple d'une personne qui est là dans une réunion et puis tout le monde discute sur les projets, sur ce qu'il faut faire et tout. On connaît ce genre de réunion. Et puis à la fin, on se dit, bon ben, ok, alors c'est super, ben on organise une autre réunion. Le Rabbi de Lubavitch avait une très belle phrase. Il disait, vous avez un projet, vous voulez vraiment qu'il échoue, il n'y a pas de problème, faites des réunions. Alors bien sûr, il en faut une, il en faut au moins une pour pouvoir lancer les choses, voire même deux. Mais souvent, ce que l'on fait, c'est on repousse le passage à l'acte à plus tard. Or, cette notion de zrizout, comme on l'a vu, est le révélateur de l'importance qu'a la chose à nos yeux. D'ailleurs, au passage, eh bien, on va voir cette notion aussi dans un texte que l'on prononce le jour de Kippour. En effet, le jour de Kippour, vous savez qu'on va exprimer devant Dieu toutes les fautes qu'on aurait pu commettre. On va se repentir, on va faire ce vidou. Il y a un moment, on va dire Al-Khet. Nous sommes en train d'exprimer la faute. Shechatan ou le fanecha que nous avons fait devant toi. Et c'est quoi cette faute? Ce sont ces fautes que l'on a fait. Beritsat raglaim le hara. Quand nos pieds ont couru vers le mal. Et Rav Volbe ici pose une question tellement évidente. Il dit, mais je ne comprends pas. Ce ne sont pas mes pieds qui ont couru. Mes pieds ne sont qu'un moyen technique. Ce qui a couru, c'est moi. C'est l'individu qui a couru. Donc on aurait dû dire Al-Khet Shechatan de Lefanecha, Beratznu Lara, sur les fautes que nous avons faites quand nous avons couru vers le mal. Et Rav Volbe donne cette réponse lumineuse. Il dit non. Il faut savoir que lorsque quelque chose est devenue très importante pour toi, que tu la désires profondément, que tu as envie véritablement de l'atteindre, eh bien, quand elle se présente à toi, tu te vois être immédiatement en mouvement vers elle. Et le drame, c'est qu'en effet, quand nos aspirations sont tournées vers les choses négatives, au plus profond de nous-mêmes, on aimerait vivre certaines choses, quand les possibilités se présentent à nous, eh bien, on se voit être en train de courir vers cette chose qui nous attire profondément. Il y a cette zrizout, cet empressement qui s'est déclenché. N'oublions pas que le mot « ratz », courir, c'est la racine du mot « ratson », qui est le mot « volonté », traduit de manière différente. Si je veux savoir, ce que je veux réellement, eh bien, j'ai qu'à faire le constat vers quoi je cours. Quels sont ces mouvements qui s'enclenchent presque parfois malgré moi. D'ailleurs, on le voit bien, puisque dans l'autre sens, le roi David, David Ameler, eh bien, dit le texte que « Chashavti dorachai », il disait « j'ai pensé à mes routes », c'est-à-dire « j'ai bien réfléchi ce que je devais faire, vers où je devais aller, « vashiva raglai aledotecha », et mes pieds m'ont amené vers tes connaissances, vers tes lois. » Et dit le Midrash que David Ameler, le roi David, s'adresse au Créateur et dit « Maître du monde, tous les jours je réfléchissais, je me disais, bon, je dois aller ici, je dois aller là, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et j'ai fait le constat que mes pieds m'amenaient vers le Beth Amidrash, vers la maison d'études. Pourquoi ? Parce que c'était ces choses-là qui étaient pour moi les plus importantes. Et donc, j'ai comme fait presque ce constat d'un mouvement vers ce qui était fondamental pour moi. Et c'est ce qu'on va voir donc dans ces deux parashiot. Abraham court vers son épouse pour lui dire, il va falloir préparer. Abraham court pour préparer, il court pour inviter. Pourquoi ? Parce que au plus profond de lui-même, c'est ce qu'Abraham désire, c'est ce qu'Abraham veut. C'est ça son ratson amok, sa volonté profonde. Et donc c'est la raison pour laquelle on a ici cette zrizout, cette rapidité, cette immédiateté, ce mouvement. Et Lavan, le futur beau-frère d'Isaac, eh bien, lui au contraire, ce qu'il agite profondément, ce qu'il désire tellement fort, c'est l'argent, l'or, les possessions. Et donc dès le moment où il voit qu'il y a une possibilité d'y accéder, dès le moment où il voit que tiens, il y aurait peut-être ici quelque chose à récupérer, il se voit être lui aussi dans ce mouvement. À nous de nous interroger en premier lieu sur ce que l'on désire au plus profond de nous-mêmes. Quelle est notre ratson, quelle est notre volonté profonde, et à ce moment-là, enclencher cette zrizout, enclencher ce mouvement rapide, non point désordonné, qui sera et à la fois le révélateur du désir qui est le nôtre, et qui en même temps fera que le désir que l'on a d'accomplir ce que l'on doit faire puisse s'exprimer et aller jusqu'au bout. Voilà, quelque part, deux éléments qui n'en font qu'un, et qui relient à mon sens en tout cas, ces deux parashiot.
Ravi Lilomel, merci pour ces très belles paroles. On va pouvoir y réfléchir ce soir et toute la semaine, donc, puisque notre émission est devenue Mélavé Malka. J'avais appris, peut-être c'est vous qui me l'aviez enseigné, que Avram, lorsqu'il reçoit les invités, il demande à Sarah, tiens, fais ça. Alors, il demande aux gens de faire quelque chose, il peut le faire lui aussi tout seul, surtout qu'on voit bien que ce n'est pas des tâches qui ont l'air incroyablement compliquées, mais que c'est aussi un menu pour nous apprendre comment on reçoit les invités. Et que associer les gens à notre mitzvah, c'est une mitzvah de plus, parce qu'on l'a fait faire aussi aux autres. J'ai trouvé ça, cette idée, très jolie.
Exact, exact. Et en plus, non seulement Abraham associe, mais il fait en telle sorte que Ismaël, son fils, participe. Et donc, non seulement il associe, mais il est aussi dans un acte éducatif. Ah. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il ne s'agit pas juste de faire pour soi, mais il s'agit aussi de savoir faire et surtout transmettre.
Shavua à Tov, Ravi Lilomel. À la semaine prochaine.
Shavua à Tov.
Et nous sommes en ligne avec Rav Mordechai Bito qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom, Alechem et Shavua à Tov. Shavua à Tov ou Mazel Tov.
Alors, on va continuer à réfléchir, à passer dans notre nouvelle paracha qui est Chaye Sarah, mais vous vous dites quand même que ça fait de la peine, la semaine passée seulement, on était encore dans Kabbalat Shabbat, et je voudrais pas ne pas dire un mot sur Vaera. Et donc vous voulez intervenir sur Akedat Yitzhak, et ensuite faire le lien avec notre nouvelle paracha, qui est celle de Chaye Sarah, puisque d'ailleurs, ça concerne aussi Yitzhak, puisqu'il va se marier.
Alors absolument. Donc, ce que je voudrais effectivement, c'est établir le lien en fait, entre la fin de paracha de Vayera et la paracha de Chaye Sarah. La fin de paracha de Vayera nous raconte donc la ligature de Yitzhak, qu'on appelle en français le sacrifice d'Yitzhak. Alors, il nous est raconté ici quelque chose qui est emblématique, c'est que Avraham Avinu se voit demander par Dieu donc de sacrifier son fils. Alors, évidemment, comme tout le monde le sait, ce sacrifice ne va pas avoir lieu, et donc à la fin, c'est un animal, qui va être pris à la place de Yitzhak, et cet animal, c'est un haïl, c'est un mouton, on va dire, c'est un animal qui appartient à l'espèce, on va dire plutôt des moutons. Ce qui est intéressant, c'est que le Zohar nous dit que le mot Bereshit signifie aussi, c'est l'anagramme aussi de Bara Taïch. Hachem a créé un bélier. Et ce bélier, c'est un bélier qui était destiné à être offert en lieu et place de Yitzhak. Alors il y a un petit problème ici entre ces deux textes. Le texte de la Torah qui nous dit que c'est un haïl qui a été offert, Et le Zohar qui nous dit que dès le départ, la bria, la création était programmée pour que lorsque cet épisode se déroulerait, eh bien, ce soit un bélier qui soit offert. Et nos sages nous disent la chose suivante. En fait, le bélier, c'est le symbole de la Midat Hadin, de l'attribut de rigueur. Et le mouton, ou tout ce qui y ressemble, c'est le symbole de l'attribut de miséricorde. Et en fait, ce qui va se passer au moment où Avraham Avinu est soumis à cette épreuve-là, cette dixième épreuve, c'est qu'Avraham Avinu, Avraham, c'est l'emblème du chesed, c'est l'emblème de la bonté, de la miséricorde. Et là, lorsque Dieu va s'adresser à lui, il s'adresse à lui sous le nom de Elohim, qui est l'attribut de rigueur. En fait, dans cet épisode, Avraham, qui est l'emblème du chesed, va imprimer dans son existence, dans sa descendance, et comme on le sait très bien, Maaseh Avot Tzivah Labanim, également puisque les actions de nos pères sont une matrice historique, spirituelle, qui se répète tout au long de l'histoire, il va imprimer jusqu'à notre génération cette capacité de renverser, de transformer l'attribut de rigueur en attribut de miséricorde. Par cet acte d'abnégation, dans lequel il se soumet complètement à Hachem, cet acte qui est un acte qui défie complètement le sens même de l'aventure d'Abraham Avinu. D'accord ? Et dans cet acte, c'est un acte qui est un acte de renversement complet. Eh bien, dans cet acte-là, Avraham, par son abnégation, va introduire dans l'histoire du peuple juif la possibilité pour le peuple juif de bénéficier de la miséricorde. Vous savez que dans toutes nos prières, lorsqu'on prie et qu'on demande à Dieu de faire preuve de miséricorde vis-à-vis du peuple juif, on invoque le mérite du sacrifice de Yitzhak. Parce que ce qui se joue à ce moment-là, c'est qu'au départ, quand Dieu crée le monde, il a créé le monde avec l'attribut de rigueur. Mais voyant que le monde ne peut tenir que si on lui adjoint donc l'attribut de miséricorde, eh bien, Hachem met en marche l'attribut de miséricorde. Eh bien, ce que Avraham Avinu va faire dans cet épisode-là, eh bien, c'est d'introduire finalement dans l'histoire du peuple juif cet attribut de miséricorde. Et donc, tout au long des siècles, par le mérite de ce qui se passe au moment du sacrifice de Yitzhak, eh bien, tout le peuple juif pourra invoquer l'attribut donc de miséricorde qui a trouvé à ce moment-là, en quelque sorte, une place d'honneur dans l'histoire du peuple juif, par précisément l'abnégation d'Avraham et de Yitzhak. Alors justement, sans transition, comme on le dirait par ailleurs dans le journal de 20h, passons sur Parashat Chayei Sara. Bah, cet homme qui survit, si je puis dire, c'est Yitzhak. Et la Torah nous raconte qu'il descend de la montagne, et là, on annonce à Avraham Avinu que son zivouk, son âme sœur est déjà née, et donc on va annoncer, dans la Parasha donc, de Chayei Sara, bah, tout simplement le mariage de Yitzhak avec Rivka. Ce mariage a été possible et parce que donc Yitzhak a survécu, si je puis dire en quelque sorte, à cet épisode-là. Pourquoi fallait-il que Yitzhak passe par là ? Yitzhak, c'est l'attribut du din, c'est l'attribut de la rigueur. Dans les trois avot, dans les trois patriarches du peuple juif, c'est celui qui incarne l'attribut de rigueur. Et donc, lui, il va passer par, comme on l'a expliqué là maintenant, il va passer par un épisode qui est la signature de l'attribut de miséricorde dans l'histoire du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, on va voir que Yitzhak est un maillon fondamental dans la transmission donc, de cette aventure-là. Mais en même temps, son épouse Rivka, elle est choisie pour quoi ? Elle est choisie pour son chesed, elle est choisie pour sa bonté. Et c'est grâce à elle d'ailleurs que les bénédictions qui devait atterrir chez Esav, chez Esaü, vont atterrir finalement chez Yaakov, c'est-à-dire c'est le troisième père du peuple juif. En fait, Yitzhak, au moment de la Akedat Yitzhak, il reçoit la possibilité d'imprimer dans le peuple juif la force de l'abnégation. Cette force de l'abnégation, finalement, assez bizarrement, bien qu'elle repose chez lui sur un attribut qui est l'attribut du din, en fait, c'est ce qui permet de prolonger ce qu'Avraham Avinu a voulu, c'est-à-dire d'introduire la dimension de la miséricorde dans le peuple juif. Et c'est assez étonnant, c'est assez paradoxal de voir qu'un patriarche qui incarne un attribut de rigueur va permettre l'apparition dans l'histoire, va permettre la prolongation, l'apparition, l'installation dans l'histoire du peuple juif de l'attribut de miséricorde. Et à chaque fois qu'on va prier, on va intervenir, non pas par le mérite de Avraham Avinu, mais par le mérite de Yitzhak. Comme si, en quelque sorte, le mérite de Yitzhak, il était supérieur à celui d'Avraham Avinu, ce qui est étonnant, parce que si Yitzhak avait été sacrifié, Avraham aurait dû rester jusqu'à la fin de sa vie avec cette aventure. Mais pourquoi c'est le sacrifice d'Yitzhak ici ? Parce que Yitzhak, c'est un paradoxe. D'un côté, il y a l'attribut de rigueur, mais de l'autre côté, grâce précisément à son abnégation, la possibilité de bénéficier donc de l'attribut de miséricorde. Alors, il y a dans le texte un truc qui est très intéressant, un point qui est très intéressant. C'est marqué là-bas que le haïl, il a retrouvé Basvar. Ce haïl-là, il est parti s'empêtrer dans des ronces, et c'est ce qui a fait, donc Abraham va l'attraper, va l'amener sur l'autel des sacrifices. C'est intéressant parce que le mot Svar, qui s'écrit en hébreu avec sa mère Bet Raf, eh bien les lettres qui suivent dans l'alphabet, ces lettres-là, c'est le mot Egel, c'est le veau, en référence au veau d'or. En vérité, à ce moment-là, eh bien la puissance de l'attribut de miséricorde, il est telle, qu'il pourra même permettre de sauver le peuple juif après la faute du veau d'or. Donc on voit que ce qui se joue ici, ce qui se joue autour de Yitzhak, et ben finalement c'est cette possibilité d'imprimer ça dans l'histoire du peuple juif. Donc on nous raconte son mariage avec Rivka, il se marie, il va poursuivre l'aventure, mais l'aventure il la poursuit en permettant au peuple juif d'avoir des outils de prière et des outils de survie en quelque sorte tout au long de son histoire. Et donc c'est un point qui est fondamental, qui nous concerne même jusqu'à nos jours. Et on vit encore sur le mérite du sacrifice de Yitzhak. On vit encore sur ça. Le peuple juif bénéficie encore du mérite de ce qui s'est passé à ce moment-là. La miséricorde du peuple juif, eh bien, qui touche le peuple juif, elle est toujours en partie due à cet épisode. Et donc, c'est un point qui est fondamental parce que finalement, à Kippour, à Rosh Hashanah, on invoque le mérite de Yitzhak, on sonne du chauffard. On rappelle le mérite de Yitzhak. Il faut donc comprendre assez paradoxalement que celui qui est le symbole de la tribu de rigueur, ben c'est celui qui permet la survie du peuple juif. Voilà, Shavua Tov à tous et à tous. Et je crois que c'est un point à réfléchir.
Eh bien, c'est ce que l'on va faire. Et on vous remercie pour ces belles paroles. Merci à vous, Rav Mordechai Habitant, et Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir.
Shavuatov.
Shavuatov.
Comme on a dit, c'est la première fois qu'on se dit Shavuatov dans cette émission. Et donc, vous avez décidé vous aussi de ne pas faire le choix, parce que c'est un crève-cœur, entre Vaera et Chaye Sarah. Donc vous allez nous parler des deux. Et vous avez vu une problématique qui apparaît dans les deux parachutes, qui est une très belle problématique, et d'ailleurs ô combien humaine, c'est la jalousie. Alors ce soir, étonnamment, Rav Gay, vous allez nous parler de jalousie.
Tout à fait. Bonjour à tous, c'est Shavua Tov. Effectivement, c'est un thème qui ne paraît a priori pas du tout lié à la paracha, mais pourtant, on va commencer par la paracha de Vaïra. À la fin de la paracha de Vaïra, nous lisons un passage fameux, celui de Akedat Yitzhak. Lorsque Abraham a mis son fils Yitzhak sur l'autel et a failli l'égorger et l'apporter en sacrifice, et finalement, on le sait, à la dernière minute, l'ange lui demande de ne rien faire et il va apporter un bélier à la place, un haïl. Alors, sur le chemin, on nous dit que Avraham et Yitzhak marchent ensemble. Vayelchu shnehem yachdav. Les deux ont marché ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, nous disons Chachamim, que ce n'est pas seulement parce qu'ils marchaient l'un à côté de l'autre, mais qu'ils étaient totalement d'accord l'un et l'autre. Yitzhak savait très bien ce qu'il attendait et il le faisait Belev Shalem, c'est-à-dire d'une façon entière, sans la moindre hésitation. Pourtant, si on lit le Midrash, on trouve dans le Midrash une phrase étonnante. Le Midrash s'interroge sur un des versets qui nous dit qu'à un moment, Yitzhak interroge son père. Donc, Yitzhak dit à Avraham, Aviv, Avraham son père, Vayomer Avi, Papa, Yomer, il est ni béni. Oui, je suis là, mon fils. Cet échange est très étonnant. Pourquoi la Torah répète que Avraham est le père de Yitzhak? Pourquoi la Torah relate le fait qu'il l'appelle papa? Tout cela, ce sont des détails de discussion. Vous savez que chaque mot dans la Torah est pesé, réfléchi. Et pourquoi avoir insisté sur papa, le père, alors que nous savons très bien qu'Abraham est le père de Yitzhak? Nos sages nous disent quelque chose d'extrêmement étonnant. Ils nous disent qu'à un moment, le Satan, le tentateur, l'ange malfaisant, essaye évidemment de dissuader Abraham, puisqu'on sait qu'à l'origine, c'est cet ange-là qui est allé voir Hachem en disant « Attends, arrête, Abraham, tu ne l'as pas vraiment mis à l'épreuve. Il a eu quelques épreuves, mais ce n'est pas l'épreuve ultime. »
Et évidemment, l'épreuve ultime, c'est le sacrifice d'Yitzhak. D'ailleurs, je ne sais même pas si on dit sacrifice, ça, c'est vous qui nous direz, mais parce qu'il paraît qu'il y a une discussion entre les Chachamim. Mais bon, mais l'épreuve ultime, donc, c'est forcément la ligature d'Yitzhak.
Effectivement, le terme « Akeda » veut dire « ligature ». Effectivement, on peut penser, on le pense, c'est exact au niveau d'Abraham, c'est certainement l'épreuve ultime, la dixième épreuve d'Abraham. Mais là, en fait, je voulais aujourd'hui plutôt m'arrêter sur Yitzhak et dire que Yitzhak, il a également une épreuve, en fait. Hein. Il est prêt à donner sa vie parce que Dieu a ordonné à Abraham. En plus, lui, il n'a pas entendu cet ordre et il est prêt à tout sacrifier et tout donner parce que Abraham a reçu cet ordre. Mais ce qui m'intéressait, c'était de dire, mais regardez, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, a priori, lorsqu'on parle de l'héritage, c'est de ce dont je vais parler maintenant, on a le fils, on dit que plusieurs reprises, Akadosh Baruch Hu, Dieu répète dans la Torah que Yitzhak dit à son père Abraham, Abraham, Avi, mon père, béni, Avi, mon père, on répète plusieurs fois papa, alors qu'en fait, on sait très bien qui est Abraham, qui est Yitzhak. On a besoin de rappeler que c'est le père et le fils. Mais c'est qu'en fait, nos sages nous disent dans la paracha, dans le midrash, pardon, c'est qu'il y avait à un moment un doute. C'est quoi un doute? Une hésitation. Laquelle? Le Satan, qui veut absolument empêcher Yitzhak d'accepter cette akedat Yitzhak, qu'est-ce que fait le Satan? Il vient et il va tenter. Et ça, il y a Yitzhak en disant, tu sais Yitzhak, si tu meurs, eh bien l'héritage, celui de Ishmaël, va tomber, pardon, l'héritage, celui de Sarah ta mère, va tomber dans les mains d'Ishmaël. Donc comment est-ce que tu peux accepter de disparaître en sachant que cet héritage va tomber dans les mains d'Ishmaël? Et à ce moment-là, il hésite. Et comme il hésite, il dit papa, papa, il incite sur le mot terme papa pour éveiller éventuellement la miséricorde du père et pour obtenir effectivement l'arrêt de cette marche vers la mort. Et puis finalement, il se ressaisit, Yitzhak, il dit non, mais finalement, je vais donner ma vie et je vais donner aussi mon héritage. Vous avez compris, ce n'est pas l'argent ici qui compte. C'est le fait de savoir que c'est Ishmael qui va prendre ce qu'il aurait dû recevoir de sa mère. Et pourtant, quelqu'un qui est capable de donner sa vie, hésiterait-il à donner l'héritage? En fait, ce n'est pas l'héritage, c'est la jalousie. Donc on voit ici la puissance de cette trait de caractère, et on le trouve, ce trait de caractère, évidemment, aussi chez Eliezer, le serviteur d'Abraham. Il est mis à l'épreuve parce qu'il a une fille et que cette fille est tout à fait éligible pour Yitzhak. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il lui dit, tu sais, toi tu t'appelais maudit, il faut absolument que tu maries, que je marie mon fils Yitzhak avec quelqu'un de ma famille, avec Rivka. Et Eliezer va remplir cette mission d'une façon parfaite, alors que tout simplement, ça va à l'encontre de ses intérêts. Et lui, il a des ambitions pour Yitzhak. Et il sait de quoi il parle. C'est un Eliezer, un grand sadique, un Talmid Chacham. Il comprend qu'il a tout intérêt à avoir Yitzhak. Et pourtant, il va remplir sa mission d'une façon parfaite. Sarah est jalouse de Hagar. Hagar qui s'est mariée avec Abraham et qui est enceinte très rapidement. Sarah est jalouse. Donc on retrouve cette jalousie un peu partout. Mais en fait, est-ce que la jalousie est-elle toujours quelque chose qu'il faut chasser? Pour ça, je me dis que non. Il y a une jalousie positive, une jalousie constructive. Ça s'appelle Kinat Sofrim Tarbe Chochma. La jalousie des scribes augmente la sagesse. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise cette ambition, parce qu'on n'appellera plus jalousie, on appellera ça ambition. Hachem a donné à l'homme, dans l'homme, une force. Cette force peut se transformer en une force destructrice, mais elle peut être aussi une force de construction. lorsque je me retrouve dans une communauté qui progresse, où mes voisins avec lesquels je prie, à côté desquels je prie, qui me disent qu'ils étudient régulièrement, je vois qu'ils lisent le Sidour, la Tfila facilement. Tout cela, ça me motive. J'ai besoin d'être motivé. Les êtres humains ne peuvent pas. C'est très dur de progresser lorsqu'on est seul face à un mur dans sa maison. On a besoin d'être motivé par une émulation positive. Et vous savez, la jalousie, elle existe même chez un homme comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avant sa mort, il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux rester sur terre, je ne veux pas partir. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas rester. Il y a Yehoshua Binoun, c'est son temps. Son temps est arrivé, il faut qu'il puisse exercer son leadership. Et Abraham dit, non, mais je vais rester sur le côté, je serai là, mais je ne dirai rien. Yehoshua Binoun commence, et Yehoshua Binoun reçoit un appel, une sorte de prophétie d'Hachem. Et Moshe veut savoir, mais qu'est-ce qui t'a dit Hachem? Et Yehoshua Binoun dit à Moshe, mais non, tu n'as pas le droit de le savoir, ce n'est plus le leader. Et à ce moment-là, Moshe dit 100 morts plutôt qu'une fois une jalousie. C'est-à-dire qu'il comprend que ce n'est pas viable. Il ne peut pas supporter le voir Yehoshua Binoun devenir prophète et lui être mis de côté. Parce que tout simplement, l'être humain, c'est naturel, il a des ambitions et on ne peut pas totalement oublier ses ambitions. On a tous envie de réussir, de faire des choses. Et c'est nécessaire, et c'est un moteur de l'humanité, et c'est un moteur dans la spiritualité aussi. Donc, souhaitons-nous, Ezrat Hashem, avec ce Dvar Torah, essayons de nous motiver à tout simplement être à côté de gens qui nous motivent dans des bonnes directions pour essayer de les dépasser, de se surpasser soi-même en prenant exemple sur les autres qui sont allés beaucoup plus loin que nous. Shavua Tov à tous.
Shavua Tov, Rav Gueh. On va essayer effectivement. Déjà, j'ai cru comprendre que l'idée, c'est aussi de savoir de quoi être jaloux, quoi. Et sur quoi.
Exactement,
Hein,
exactement.
alors,
Être
Rav Gueh,
jaloux de quelqu'un, voilà.
eh bien, moi, je vous souhaite Shavua Tov et à la semaine prochaine. Bonsoir, Rav Gueh.
Shavua Tov, Shavua Tov.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous rappelle qu'elle était enregistrée et c'est à mon tour de vous souhaiter Shavua Tov. Je voudrais aussi signaler une initiative très sympathique. Pour laquelle nous donnons un petit coup de main, nous, ici à la radio, c'est la société QuickSource qui recherche activement 30 ingénieurs informatiques. Alors, pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce qu'elle propose des CDI et elle permet à chacun de ses salariés de respecter les horaires de Shabbat et de fête, les Yom Tov, donc CDI, avec engagement de partir le vendredi après-midi comme on veut, et Dieu sait qu'en ce moment c'est précieux. Et puis pareil pour les fêtes. Contactez Lionel Cohen au 01 44 730 750, 01 44 730 750. Cette société est à Bastille, donc à Paris. Elle recherche notamment des développeurs et des ingénieurs en sécurité. Quelques postes sont à pourvoir en Israël pour ceux qui veulent faire leur alia avec un CDI français. Vous nous appelez, enfin pas nous, vous appelez cette société au 01 44 730 750. 01 44 730 750. Voilà, j'ai tout dit. Excellente soirée et
Shavua Tov.